Cet après-midi, nous l'avons voulu d'une manière assez conviviale. Ce n'est pas une conférence à l'état brut, c'est une discussion, c'est une rencontre entre deux très belles personnalités autour de cette histoire, de cette grande histoire. On va essayer de passer à peu près une heure et demie, avec un temps d'échange, bien sûr, avec vous, puisque vous avez certainement des questions à poser à Jean-Paul Cussy et à Gabriel Patizio. Et puis par ailleurs, vous l'avez vu, vous avez le stand, la librairie et le blason d'Aix-en-Provence et de Saint-Rita et son équipe, toujours fidèle, toujours présent pour soutenir la littérature, pour soutenir l'édition, pour soutenir les écrivains locaux, les historiens. Et merci d'être avec nous, d'avoir passé cet après-midi et pas être à Aix, dans cette belle librairie qui a agrandi. Hein, vous savez, si vous n'êtes pas allé, vous avez juste changé
Très petit
le côté
bonjour.
de la rue. Et bravo, j'ai voulu soutenir les libraires indépendants qui font un vrai et grand et beau travail. 20% pour les applaudir pour commencer. Oui. Soutenons les libraires. S'il n'y a pas de libraires, ce n'est pas la peine que des écrivains. Déjà, hein, c'est clair, net et précis. Nos invités du jour, comment les présenter? Que dire de vous? Passionné par les Vaudois, évidemment, vous avez l'éminent spécialiste, notre ami Gabriel Patizio, professeur émérite à l'Université de Provence. Vous avez quasiment tous lu au moins ou un de ses ouvrages, de ses articles. J'ai le dernier qui a été republié cette année, à nouveau réédité chez Equinox il y a quelques mois, puisqu'il a été imprimé encore au mois de
Ah, bon.
février 2021.
Ah, je ne sais pas au courant.
Et bien voilà, il y a une nouvelle édition, une nouvelle imprimerie. Les Vaudois, histoire des pauvres de Lyon, donc chez Equinox. Et puis, j'en compte aussi, bien sûr, Le Printemps des Maudits, chez Hervé Chopin. C'est la thématique du jour. C'est un roman. Alors, justement, Jean a beaucoup, beaucoup écrit. On a fait la route ensemble tout à l'heure pour venir de Marseille. On a beaucoup lu aussi de ces livres qui parlent de l'histoire beaucoup plus récente, de l'histoire marseillaise, des histoires beaucoup plus dans le sud des Bouches-du-Rhône que dans le sud du Vaucluse. Et là, il s'est intéressé à quelque chose qui est beaucoup plus récent aussi dans l'histoire, hein, parce qu'il a quand même été pendant plus de 20 ans, même plus, correspondant au journal Le Monde, auteur et journaliste pour Le Soir, Le Provençal, également critique littéraire. Ça mort après, il a changé de fusil d'épaule, au lieu de critique littéraire, il est devenu écrivain. Et donc, des dizaines, une quinzaine de livres sur les mystères de Marseille, là on était à Marseille ici, d'autres romans, on en parlait tout à l'heure, il a écrit les biographies de Dominique Piazza, un personnage assez amusant également. Et puis arrive là Le Printemps des Maudits. Et on va confronter deux manières de travailler, c'est ça, deux manières de travailler. L'historien, la rigueur scientifique, les faits, l'analyse, la recherche, le travail, l'écriture, et derrière le romancier, qui va de ces faits un petit peu les adapter, les transformer, inventer des personnages pour donner chair, pour donner corps, pour donner une âme à une histoire. Et cette histoire, elle nous touche, elle vous touche. Je suis pertuisien. Je vous ai un petit peu ici. Je suis né à Pertuis, ma maman est présente dans cette salle, et mes grands-parents sont méridionaux. C'est-à-dire que ça me touche un petit peu à titre personnel, cette histoire des Vaudois. Mais en dehors de ça, je suis journaliste. C'est aussi mon métier. Donc j'essaie d'avoir un petit peu de recul. Bon, 1545, c'est loin de temps. Mais cette histoire, elle nous touche. Et j'ai envie d'en savoir plus avec nos deux éminents invités. Et pour commencer, je vais dire, Gabriel Odizio, pourquoi une telle rencontre?
Alors d'abord, je demande de votre indulgence, non seulement parce que j'ai oublié mon téléphone sur lequel était mon passe, mais heureusement j'avais un papier aussi. Alors donc, personne n'a rien à craindre ici, mais surtout parce que avec le téléphone, j'ai laissé mes lunettes. Alors ça, c'est beaucoup plus grave. Enfin, on va essayer de faire avec. Alors, oui, j'ai eu cette idée et elle remonte à longtemps, et je crois que ce n'est pas sans importance de vous dire pourquoi et comment. C'était à l'époque où Marcel Maréchal était directeur du théâtre de la Criée à Marseille. Donc, vous voyez, une autre vie pratiquement. Et il avait décidé de programmer une pièce de théâtre qu'il a intitulée Le Voyage à Bâle. Et ça mettait en scène Érasme, Didier Érasme, hein, l'érudit, l'humaniste néerlandais de Rotterdam. Et il a eu cette idée qu'à l'issue d'une des représentations, aurait lieu une table ronde, les intervenants étant sur la scène et le public, bien sûr, dans la salle. Et à une de ces représentations, donc, à l'issue, il devait y avoir cette table ronde à laquelle on m'a invité. Bon. C'est Anne de Belval qui était à l'époque chargée de la communication, et elle a pris contact avec moi pour me demander si je voulais participer. Bon. Innocemment, j'ai dit oui. Et je me suis retrouvé avec trois ou quatre autres collègues, dont un littéraire et puis d'autres, je ne sais plus. Et alors, on a eu ce débat déjà parce que quand j'ai lu le scénario de cette pièce et quand je l'ai vu, cette pièce, finalement, il y a un certain nombre de questions que je me suis posées. La période que je connais le mieux, c'est le XVIe siècle, donc on était en plein dedans. Alors d'abord, chacun sait, ou si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave, mais enfin, je vous le dis, Erasme était un petit bonhomme, malingre, souffreteux, souvent malade, et bon, et on voit rentrer sur scène François Chateau, qui devait avoir 30 ou 40 ans à l'époque, et tandis que Erasme, au moment où on le prend dans ce voyage à Bâle, il a 66 ans. Bon. Et alors on voit rentrer ce grand gaillard qui fait peut-être 1m90, bien bâti, tout ça. Et déjà ça m'a interrogé. Je me suis dit comment. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la conséquence qui est d'abord visuelle. C'est-à-dire que Erasme n'était pas comme ça. Enfin, je ne l'ai pas rencontré, mais tout le monde. Enfin, la tradition le dit et je crois que c'est vrai. Et donc je me suis dit, mais. Alors ensuite, il y a eu d'autres éléments dans la pièce qui m'ont posé question. Par exemple, on parle de l'Inquisition aux Pays-Bas à l'époque de ce voyage à Bâle. Or, l'Inquisition dans les Pays-Bas n'arrive qu'en 1544, et Erasme meurt en 1536, donc il ne pouvait pas connaître l'Inquisition. Bon. Et en plus, il est question des livres qui ont été interdits par la congrégation de du Saint-Siège, en fait, de l'Église catholique, la congrégation de l'Index. Et c'est vrai que pratiquement tous les livres d'Erasme ont été interdits par l'Index. Mais pas avant 1544, qui est la date de création de cette commission. Donc Erasme n'a pas pu connaître l'interdiction de ses propres livres, puisqu'il était déjà mort. Or, vous voyez, alors à partir de là, dans le débat d'ailleurs, mais je ne vais pas vous le résumer parce que ça couperait l'herbe sous les pieds à notre débat ici, mais je me suis dit, mais jusqu'où peut aller. Alors ça c'est une pièce de théâtre, c'est pas un roman. Mais après, j'ai lu comme vous sans doute beaucoup de romans historiques, de toutes les périodes, bon, mais ou des films. Et il y en a certains qui sont très réussis, très beaux, je pense au Retour de Martin Guerre. Mais ce n'est pas étonnant, puisque la conseillère historique et une collègue américaine, Nathalie Davis, qui est une spécialiste, elle a fait ses travaux sur Lyon au XVIe siècle, donc elle connaissait ça parfaitement. Alors là, vous n'avez pas une seule erreur. Enfin, en tout cas, je ne vais pas repérer. Alors, la réflexion est celle-là, voyez-vous. Nous avons des faits qui sont historiquement attestés. Ils ne sont pas tous. Mais personnellement, j'aime faire la différence entre le possible, le probable, le très probable, et puis le certain. Et je crois qu'il ne faut pas mélanger tout ça quand on a une vision historique. Si on ne peut pas prouver quelque chose, ben on ne le prouve pas. On dit, il est possible que, et voilà, c'est tout. Et ça fait partie de ce que, on peut appeler, l'honnêteté intellectuelle, finalement. Et c'est pourquoi les bouquins que j'écris, en tout cas les derniers, sont un peu touffus, parce que je me crois chaque fois obligé de dire comment est-ce que je sais ce que je suis en train d'écrire, pour que le lecteur lui-même soit au courant de la démarche. Alors, le roman historique, je suis allé voir d'abord les définitions. Il faut toujours partir des définitions de la langue française pour savoir de quoi on parle. Alors, roman. Œuvre d'imagination constituée par un récit en prose d'une certaine longueur dont l'intérêt est dans le Alors voilà, les lunettes, vous voyez. L'étude de mœurs ou des caractères, l'analyse de sentiments ou de passions. Ça, c'est la définition chez Larousse. Quant à histoire, récit, cherchant à reconstituer le passé dans sa vérité, à la différence de la fable ou du conte, ou etc. Alors, je ne sais pas, le roman historique, par exemple, quand Marguerite Yourcenar écrit L'œuvre au noir, qui se passe justement au XVIe siècle, avec son chirurgien Zénon, on en a d'ailleurs tiré un film, je vous ai dit un mot de Martin Guerre. Quelle est la marge de manœuvre qu'a l'auteur d'un roman historique? Alors, moi j'aimerais bien que Jean Pénussy nous dise un peu dans quelle perspective il se situe par rapport à ça.
C'est la question que nous allons lui poser. Voilà. C'est la question de ce débat notamment. Jean, j'ai tout de suite envie de vous poser une question, très simplement. Pourquoi ce choix des Vaudois, cette minorité en Provence, comme thème du jour? Pourquoi ce choix?
Bon, je ne vais pas me cacher derrière les petits doigts, je suis un raconteur d'histoire, non pas un historien, donc je n'ai pas du tout la prétention d'avoir fait un ouvrage historique, et surtout de venir piétiner les plates-bandes qui ont été si bien plantées par Gabriel Audizio. Donc mon problème, c'était de raconter une histoire qui ait des bases historiques, mais sans être, me croire obligé de donner toutes les références, ni de suivre pas à pas ce que l'histoire m'avait enseigné dans les livres de Gabriel Audizio. D'ailleurs, je voudrais vous dire en préambule que je suis un petit peu gêné parce que je suis un peu comme un cambrioleur, si vous voulez, devant vous. Je suis ici sans doute celui qui en sait le moins sur cette histoire, et c'est moi qui ai fait un livre. Et non seulement j'ai fait un livre, mais Dieu le Père m'a demandé de venir au moins m'asseoir à sa gauche. Donc vous voyez que je suis un peu gêné, quoi, parce que je suis rentré par effraction en voulant raconter une histoire. Parce que je me suis rendu compte, moi je la connaissais dans ses grandes lignes, d'abord je n'en connaissais pas l'ampleur. L'ampleur et le désastre humain et politique qu'a pu engendrer cette semaine sanglante d'avril 1545. Je n'avais pas imaginé que ça avait pris cette proportion-là, au point de mobiliser pratiquement tous les princes d'Europe qui regardaient cet événement local. Finalement, c'est une histoire qui se passe sur 60 kilomètres. C'est pas la guerre de 100 ans, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose de petit et qui se passe chez des petites gens. J'ai cru que tout le monde la connaissait, cette histoire. Je me suis rendu compte, en parlant avec l'un avec l'autre, que ce n'était pas le cas. Et non seulement ce n'est pas le cas, mais maintenant que j'ai un peu de recul, puisque le livre est sorti au mois d'avril, j'ai donc des retours. Je suis étonné du nombre de gens qui me disent « mais on ne connaissait pas ça ». Bon, alors, on a envie de leur dire « mais enfin, monsieur Audizio, vous avez préparé le terrain, vous pouviez aller voir ». Je crois qu'il y a une partie de gens, même des gens cultivés, qui sont un peu intimidés par l'ouvrage historique, et le roman vient un peu les tirer par la manche. Et au fond, c'est ce que j'ai voulu faire, sans prétention. Je me suis dit, s'ils lisent mon roman, à la fin, il y a des références historiques. S'ils ont envie d'aller plus loin, ils y vont. Mais moi, j'ai fait ma petite cuisine dans mon coin, avec un modèle qui est mon maître qui dirige mes pas de loin, c'est Alexandre Dumas. La reine Margot, c'est l'histoire de la Saint-Barthélemy. Mais il a pris des libertés avec, en disant cette phrase qui va au moment de MeToo et lui vaudrait les foudres des féministes enragées. Il a dit on est autorisé à violer Clio du moment qu'on lui fait de beaux enfants. Voilà, donc j'essaye modestement de faire quelques enfants à Clio en essayant que ce ne soit pas des enfants dans le dos. Voilà. Et comme je suis là aujourd'hui, c'est la preuve que je n'ai pas dit trop de bêtises. Il doit y en avoir certainement, et Gabriel Audizio est trop généreux pour me les avoir fait remarquer. Mais l'essentiel, c'est que je puisse toucher une classe de gens qui n'auraient peut-être pas, comme vous, eu envie d'aller mettre le nez dans cette histoire et d'en découvrir l'ampleur, et l'ampleur et les conséquences. Voilà, c'est le premier pas dans mon effraction.
Alors justement, dans le livre, alors peut-être que certains l'ont déjà lu, d'autres vont le lire, j'espère, à l'issue de ce petit moment de rencontre cet après-midi. Dès le début, vous précisez, et au début, quels sont les personnages fiction et quels sont les personnages historiques réels. Et dès le début, moi je trouve ça très bien que ce soit précisé en préambule. Souvent, comme tout le monde, je dévore les romans historiques, les polars, tous plus sanglants les uns que les autres autour de l'histoire. Et à la fin de ce moment, l'auteur dit voilà, alors voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est le domaine de la fiction, voilà ce qui est inspiré par les faits ou par des personnages réels. Mais là, ce qui m'a plu, c'est que c'est précisé dès le début. Et comme vous le dites fort bien, Jean, alors là, je ne vais pas aller bien loin, c'est la première phrase que je vais lire, tout simplement, avertissement au lecteur pour y voir plus clair dans une histoire compliquée. Cette histoire, en effet, elle n'est pas si simple que ça. Vous la connaissez, vous la maîtrisez, vous la savez. Plus ou moins bien, et même très bien, mais vous avez imaginé des personnages pour donner chair à des comptes rendus, à des actes notariés qui ont été épluchés par Gabriel Odizio, qui ont été retranscrits par des textes anciens qui ont été réécrits en français d'aujourd'hui, qui ont été analysés, qui ont été confrontés. Et ça, la tâche de l'écrivain, c'est réussir à donner un corps à ces personnages, un corps physique, expliqué, il est gros, il est maigre, il est grand, il est petit, on ne le sait pas forcément, un acte notarié ou un acte de parlement ne va pas nous dire, il était vêtu d'un chapeau rouge avec ses belles guêtres, ses grandes bottes, et il avait l'air d'avoir beaucoup de prestance, ou au contraire, il était tout petit, souffreteux, et la belle Isabelle, qui a à peine 16 ans, elle est comme ci, comme ça. Donc ça, c'est le travail du romancier de donner corps. Et donc, j'ai beaucoup aimé que ce soit écrit au début, au moins on sait où on va. Ça, c'est pas mal. Surtout que notre ami Beignet d'Opède, que nous aimons tous, évidemment, ici, pour ses faits fabuleux. Non, mais là, vous n'arrivez pas à le rendre sympathique. Genre, c'est pas possible. C'est pas possible.
Il ne faut pas demander l'impossible. Non, mais c'est, vous venez de mettre le doigt sur le délicat de mon travail. Il faut introduire dans une histoire qui est écrite, que l'on peut trouver dans les ouvrages sérieux historiques, il faut y introduire des personnages de fiction qui vont la faire revivre sous les yeux du lecteur pendant le temps de la lecture de 400 pages, sans bousculer les faits historiques. Donc il faut, la difficulté, c'est de maintenir cet équilibre entre ceux qui vont se mêler de cette histoire alors qu'ils n'en font pas partie, sans la déformer. La difficulté, par exemple, dans l'histoire des Vaudois, c'est que entre l'édit de Mérindol, qui est de 1540, et la croisade elle-même, la semaine sanglante de 1545, il se passe 5 ans où il ne se passe rien. Bon, dans un roman, si vous racontez ces 5 années-là, vous perdez tout le monde au bout de la page 15. Hein, donc, c'est pas le but de la manœuvre. Donc il faut arriver à faire ce qu'au cinéma on appelle un flashback, c'est-à-dire qu'un innocent qui ne connaît pas l'histoire débarque dans le pays et se la fait raconter. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on prépare? Qu'est-ce qu'on nous a dit à la cour? Il paraît que dans le Luberon, on prépare quelque chose contre une hérésie. Qu'est-ce que c'est que ces hérétiques? Voilà, c'est ça. Il faut arriver à avoir l'innocent qui ne sait rien et à qui d'autres personnages vont raconter ce qui se passe. Et c'est cet équilibre-là qui fait que la mayonnaise, passez-moi l'expression, la métaphore culinaire, ou l'aioli, prend ou ne prend pas. Voilà. Et avec ce départ, si vous voulez, quand vous lisez le livre de M. Odizio sur l'hérésie vaudoise, vous avez ces 5 années où il y a entre la décision de faire la croisade et l'interdiction et l'arrivée de la lettre patente du roi qui va permettre qu'on passe à l'exécution, il se passe 5 années. Genre, encore une fois, c'est pas du tout romanesque. Donc il faut que dès le début, nous, on soit plongé là-dedans. Le mieux, c'est d'envoyer un enquêteur fictif qui va aller trouver un seigneur du coin qui lui est au courant et qui lui expliquera ce qui se prépare, comment ça se prépare, et même peut-être ce personnage qui n'existe pas va participer sans intervenir non plus. Mon héros ne se bat contre personne, il assiste, il est témoin, il est un peu comme Fabrice Del Longo à Waterloo, hein, c'est-à-dire il est là, mais il ne comprend pas tout, et de temps en temps, il demande des explications, donc ces explications, elles sont à l'intention du lecteur, bien sûr.
Est-ce que ça a été dur à écrire comme livre ? Difficile ?
C'est-à-dire, c'est difficile parce que j'ai été obligé de combler les trous béants de mon ignorance. Ça a pris du temps, parce qu'il était considérable. Mais j'avais l'avantage, c'est que grâce à Gabriel Dizio, j'avais le scénario. Hein, j'avais le scénario parce que lui-même avait épluché à ma place toutes les archives que je n'ai pas eu à m'appuyer. Et Dieu sait si son mérite est grand parce que j'ai lu des facsimilés des textes de l'époque. C'est carrément une langue étrangère, hein, donc il faut être habitué à lire ces textes-là et à comprendre ce qu'ils veulent dire surtout. Donc tout ça, ce travail était fait. Je veux dire, j'avais le scénario du film. Donc il ne restait plus qu'à tourner les scènes. Voilà, au fond, mon travail, c'était ça. C'est pas non plus le plus facile, mais quand même, le plus difficile était fait.
Alors, le plus difficile était fait. Merci Gabriel Odizio qui a fait le plus difficile, qui a épluché, compulsé ses 20 ans, 30 ans, 40 ans de travail et de recherche derrière cette thématique, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Est-ce que, dans Le Printemps des Maudits, dans ce livre, donc, qui est un roman, mais avec une grosse part historique, est-ce que vous retrouvez, justement, dire, tiens, ça aurait vraiment pu se passer comme ça ?
Est-ce que je peux d'abord ne pas répondre ?
Oui, vous avez le droit.
Parce que, non, je voudrais rebondir à ce qu'a dit Jean Contrussi à propos de qu'on ne sait rien de ce qui s'est passé entre 1540 et 1545. Ce n'est pas tout à fait exact.
Ah !
Non, mais pour une bonne raison, vous ne pouvez pas le savoir, parce que je ne savais pas moi-même. C'est tout simplement qu'il y a, donc c'était en 2015, c'est une petite anecdote, mais vous allez voir qu'elle se greffe directement quand même sur notre affaire. En 2015, oui, je me trouve en Argentine, et une ancienne étudiante de la faculté, qui avait fait une maîtrise avec moi, qui avait fait de la paléographie, m'envoie un courriel et pour me dire, voilà, je suis en poste aux archives départementales de la Lozère, à Mende, et en classant des papiers, des fonds personnels, je découvre deux petits registres du Parlement d'Aix, l'un de 1540, l'autre de 1545, deux originaux, et est-ce que ça vous intéresse ? Bon, alors, elle a réussi à m'en avoir copie, et quand je suis rentré, j'avais les copies de ces deux registres. Et puis ça a sommeillé pendant quelques années, parce que j'avais d'autres chantiers en cours. Et puis là, grâce au Covid, j'ai ressorti ces dossiers, et je me suis aperçu que c'était tout de même extraordinaire, parce que depuis le XVIe siècle, et comme l'a encore fait d'une certaine façon Jean Contrussi tout de suite, on se demande pourquoi ça a mis 5 ans à faire exécuter une décision royale reliée par le Parlement de Provence, c'est-à-dire la plus haute juridiction de la province. Et voilà, pendant 5 siècles, on s'est demandé mais pourquoi. Eh bien, maintenant, nous avons la réponse. Grâce à ces deux registres. Donc, je ne vais pas vous en parler maintenant parce que je prépare l'édition de ces deux registres. Parce qu'après en avoir tiré un article qui a paru dans une revue italienne en début d'année, maintenant je m'attelle à l'édition même de ces deux registres, parce que je crois que ça va intéresser pas mal de gens, quoi que ce soit un peu particulier quand même, c'est le langage juridique, le langage de l'époque. Mais enfin, je vais essayer de le rendre un peu accessible. Et surtout, j'ai la chance d'avoir trouvé un éditeur qui est celui qui a publié mes 3 derniers ouvrages, c'est-à-dire les classiques Garnier. Donc, je suis en plein travail là-dedans maintenant. Et c'est vous qui me distrayez. Merci pour cette récréation.
Ça sortira l'année prochaine, en 2022.
Hein. Oui. Donc, j'en viens à la question qui est posée. D'abord, je dois dire que moi, j'ai procédé à la façon suivante. Ah, parce qu'il faut vous dire que Jean Contrussi m'avait pris contact avant pour me dire « Est-ce que je peux vous poser quelques questions pour éviter de dire trop de sottises ?» C'est à peu près ça. Bon. Donc, bien sûr, j'avais dit oui. Puis après, Comme vous savez, le livre a paru, il a eu la gentillesse de m'en faire envoyer un exemplaire. Je l'ai lu. La première lecture, ça a été c'était pas la lecture d'un historien, c'était la lecture d'un lecteur. Donc j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt. On se laisse prendre par l'action, voilà. Puis après, cela étant, je me suis dit, mais il y a écrit roman. Mais en réalité, c'est un roman historique. La preuve, c'est qu'à plusieurs reprises, l'auteur, vous voyez qui je veux dire, prend la peine de nous donner des événements très précis, très concrets. Il y a eu 49 coups de canon envoyés contre Cabrières d'Avignon. Ça m'a d'autant plus touché, ces boulets, qu'en fait c'est moi qui ai trouvé cet acte à Avignon il y a bien des années, et c'était tout à fait amusant de voir comment on avait loué l'armée française, donc qui devait aller, on avait loué 3 canons à l'arsenal de Marseille, et on avait loué 150 boulets de canon. Et on en a rendu 51, pour ne payer que ce qu'on avait utilisé, bien sûr. Donc ils ont dû payer 49 boulets, dont j'ai l'acte de notaire, enfin je ne l'ai pas, mais je veux dire, j'ai trouvé cet acte notarié. Vous voyez que même par les actes notariés, on atteint une réalité très concrète parfois. Donc, quand on vous donne ce genre de précision, ou bien choisir un événement qui est quand même bien situé dans l'espace et dans le temps, ça veut dire qu'on se souvient un certain nombre de contraintes. Donc, je veux dire, par rapport aux fabulistes, ou aux poètes, ou aux romanciers tout court, qui peut faire jaillir de son imagination le récit qu'il voudra bien, nous avons affaire ici à quelque chose où l'auteur est un peu corseté quand même, d'une certaine façon. Donc, alors bien sûr, j'ai retrouvé, pour répondre directement donc, à la question, j'ai retrouvé la trame générale, et effectivement, je m'y suis retrouvé, parce que elle aurait pu correspondre à ce qui s'est passé. Car on n'a pas toujours le détail. Il se trouve que nous avons un procès-verbal de cette exécution, que j'ai édité il y a plusieurs années. Et je l'ai édité sous le titre « Procès-verbal d'un massacre ». Et personne, ni mes collègues qui fouillent parfois pour voir où est le petit défaut, je ne sais pas quoi. Non, mais en général, c'était très sympa à Aix, on ne sait jamais manger les uns les autres. Mais on ne fait pas un procès verbal d'un massacre. Mais ça n'existe pas. Il y aura des récits, il y aura des témoignages, mais il n'y a pas de procès verbal. C'est parce que c'était une exécution. Et là, vous avez un procès verbal d'exécution. Et justement, moi, j'ai voulu mettre dans le titre procès verbal d'un massacre, parce que c'est un procès verbal, mais ce fut un massacre. Alors, quand vous lisez ce procès-verbal, bien sûr, il y a beaucoup de silence. C'est un procès-verbal officiel, donc avec le langage de l'époque, et il y a toutes sortes de choses qui se sont passées par ailleurs, que l'on peut connaître grâce à d'autres actes, dont j'en compte ici, s'est fait l'écho ici ou là, par exemple la vente d'un enfant, de plusieurs, en tout cas moi j'ai trouvé deux actes. J'en ai trouvé un troisième, c'est un garçon de 10 ans, originaire de Lacoste, qui se retrouve sur les galères à Marseille, vendu par des soldats. Donc on a eu je trouve dans un acte notarié encore, à Lille-sur-la-Sorgue, des soldats qui se mettent d'accord et qui passent entre deux bandes, qui se mettent d'accord pour le partage du butin. Le butin, c'est parce que c'est pas la solde du soldat, hein, c'est ce qu'il a acquis illégalement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il se présente naïvement devant le notaire, et le notaire fait un acte officiel de partage du butin. Donc grâce à tous ces actes, on perçoit tout ce qui a pu se passer. Mais, et puis il y en a d'autres. Quand par exemple, vous voyez qu'il est question, il y a un grand problème qui se pose après le massacre, c'est la multitude de femmes et d'enfants qui errent dans les bois, qui n'ont plus de quoi manger, et il faut se préoccuper de les nourrir quand même, ces gens. Alors, qui va le faire? Et ça aussi, nous le trouvons dans des actes. Et ici, d'ailleurs, des actes de la justice. dans les documents que je suis en train de voir actuellement. Alors vous voyez, au fond on a un mélange dans cet ouvrage de choses qui sont absolument certaines et d'autres qui ne le sont pas, mais qui auraient pu l'être. En revanche, il y a un certain nombre d'erreurs quand même. C'était inévitable. Mais je ne veux pas me transformer ici en professeur qui corrige la copie, d'autant plus qu'elle est déjà rendue. Donc c'est tout à fait vain. Mais, par exemple, que les Vaudois aient refusé de payer la dîme, c'est impossible. Vous savez, la dîme, c'est l'impôt de l'Église, hein, qui allait à l'Église. Comment voulez-vous qu'un village comme Lourmarin ou comme Mérindol, massivement, très largement peuplé de Vaudois, s'il refusait de payer la dîme au curé, qu'est-ce qui se serait passé à votre avis? Ils n'auraient pas pu tenir quelques jours. Ils auraient été dénoncés et on dit mais qu'est-ce que. Non. Et d'ailleurs, même Luther lui-même n'a pas interdit de payer la dîme. En revanche, Calvin. Donc, vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Alors, vous me direz peut-être que c'est, au fond, c'est pas très grave ça. Mais, en tant qu'historien, ça me gêne. En tant que lecteur, pas du tout. Vous voyez, je suis un peu schizophrène dans cette affaire. Mais, si on dit, par exemple, comme c'est écrit, que l'évêque de Carpentras, Mgr Sadolet, était enclin à la tolérance. Ça n'est pas possible. La tolérance, ça n'existe pas au XVIe siècle. On a beaucoup de mal, nous, à réaliser ce que ça veut dire. La tolérance, ce n'est pas du tout un idéal à l'époque. Le mot existe. Mais c'est employé un peu comme nous l'employons aujourd'hui quand on dit qu'on tolère un médicament. Vous voyez ce que je veux dire? On tolère ce qu'on ne peut pas éliminer. Mais en aucun cas, c'est une qualité. Ce serait plutôt un défaut. De la tolérance à la connivence et de la connivence à la complicité, vous voyez, bon. Alors, voilà, alors il y a un certain nombre de petites choses comme ça, le reste, je pourrais en faire part à l'auteur s'il le souhaite, mais je trouve que, voilà, ça me met un peu mal à l'aise, parce que je comprends très bien le souci que Jean Contessieu a expliqué, c'est-à-dire, en gros, de lancer un hameçon. Je prends une autre image, au fond, c'est ça. Hein. Pour amener quelqu'un qui dit « Ah ben tiens, je ne connaissais pas cette affaire, il faudrait que je fasse ça un peu de plus près. » Bon, et tant mieux si c'est réussi. Mais du coup, il s'apercevra qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas exactes. De même que de faire de Jean du Bellay le gouverneur de Piémont, non, c'est son frère, c'est Guillaume. Joachim, il était cardinal, il était dans les relations internationales, le roi de France l'a envoyé un peu partout dans des missions délicates. Bon, mais c'est, bon, ça ne change rien à la texture de l'ouvrage. Mais Jean Contessieu, et heureusement pour moi, n'a pas pris la précaution qu'avait pris François-Olivier Gisbert avant d'écrire Le Sieur Dieu. Il m'a demandé si j'acceptais de lire son livre avant publication. Et je lui ai dit, à votre place, je ne me le demanderai pas. Parce que, ensuite, voilà, moi je vais vous faire un certain nombre de remarques qui me semblent judicieuses, exactes, bon, évidemment. Ensuite, où vous en tenez compte, et dans ce cas, vous pouvez me citer parmi les remerciements ou je ne sais pas quoi, ou bien vous n'en tenez pas compte, alors vous ne me citez pas. Parce que je ne veux pas prendre en compte alors que vous m'avez demandé de vérifier. Bon, il a pris le risque, tout s'est bien passé, on s'est rencontrés à la Brasserie du Luxembourg, à Paris, on a discuté, il a publié son livre, et il a fait ses remerciements. Mais tant mieux, je ne réclame pas de livre à lire avant la publication, parce que c'est extrêmement délicat, c'est pas la première fois que ça m'arrive, je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est toujours très délicat vis-à-vis de la personne qui vous le demande. D'ailleurs, il y a une personne pas si longtemps, l'an dernier, et depuis, j'en ai plus entendu parler. Bon, donc, voilà. Vous voyez, alors on est là sur la vraie problématique, de cette rencontre. La parole va être à Jean, tout de suite. Hein.
La parole est à la Défense.
Ah là, pardon. Il faut que je retrouve ça.
Alors pendant ce temps,
Non, c'est à propos de Défense.
Ah, c'est la Défense, alors
oui, ça va. Non, parce que ça c'est important. Il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques jours, Macron a déclaré, pardon, le président Macron a déclaré à propos d'une future loi concernant les harkis, vous en avez entendu parler sans doute, et il a dit « il ne m'appartient pas de juger, je laisse cela aux historiens ». Eh bien, pour un disciple de Paul Ricoeur, je trouve que c'est un peu gros cette affaire, parce que justement, l'historien n'a pas pour but de juger, et il n'a pas à le faire. Il a à présenter des faits, et il n'a pas à dire « un tel est bon, ou un tel n'est pas bon, ou… non, c'est pas son rôle ». En revanche, le romancier, lui, il peut présenter les personnes, et ça m'amène à vous dire encore, parce que ça, peut-être ça va donner lieu à des questions, c'est qu'il ressort de cet ouvrage les bons et les mauvais. Et moi, je partage l'avis de ce cinéaste iranien, il a sorti un film il n'y a pas si longtemps, dans lequel il dit, une déclaration dans laquelle il dit « Je ne crois pas que l'on soit tout à fait bon ou tout à fait mauvais. » Seulement, ça amène à des nuances. Et je crois, et ça pourrait faire ça l'objet d'une vraie conférence, c'est que je crois que nous sommes à un tournant de culture et que nous pensons de façon binaire et que tout nous y incite. Nos politiques, nos religieux, je trouve que c'est une maladie intellectuelle qui est en train de se répandre partout. Et alors maintenant, avec la période préélectorale qui commence, ça a déjà commencé d'ailleurs, il va y avoir les débats. C'est-à-dire, nous allons vers la fin du débat. Nous sommes très loin de ce que souhaitait Montaigne, dans un chapitre qu'il avait intitulé « De la disputation », c'est-à-dire de la discussion. C'est pour ça que je n'aime pas le mot « confrontation », vous avez prononcé, je préfère la rencontre. Parce que dans la rencontre, on est prêt à entendre ce que dit l'autre. Dans la confrontation, non. Pendant que l'autre parle, vous préparez déjà ce que vous allez lui répondre sans même l'écouter. Nous sommes tous experts là-dedans, et je ne me mets pas moi-même à l'écart, parce que nous y sommes globalement entraînés. Eh bien, les personnages qui nous sont présentés, je prends deux exemples qui sont là-dedans. Mais Jean Contrecy ne fait que continuer une très grande tradition depuis le XVIe siècle. D'un côté, Mounier d'Opède, qui a été cité. Or, dans les documents là, que je suis en train d'étudier, je vois un Mounier d'Opède qui est préoccupé comment nourrir les femmes et les enfants dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il revient à trois reprises sur la même question en disant « J'ai déjà remontré à la cour, » il parle au Parlement, hein, « J'ai déjà remontré à la cour qu'il était nécessaire de… » Et il faut prévoir les moyens. Et il prévoit qu'un tiers des revenus du clergé doivent aller pour nourrir et que les seigneurs des lieux doivent y contribuer aussi. Alors, je me dis que ce Mounier d'Opède là dont on fait et moi-même j'ai participé à une grande tradition, je ne sais pas si elle existe toujours maintenant, mais quand on montait au château d'Opède, les femmes crachaient au mur et les hommes pissaient contre le mur du château d'Opède. Bon, donc la tradition continue. Néanmoins, cet homme-là, peut-être que j'ai regardé les quatre testaments qu'il a fait. Vous avez quelqu'un, moi je... Comment vous dire ça? Est-ce que vous croyez qu'on peut être à la fois honnête et un tyran? Est-ce que vous croyez qu'on peut être à la fois convaincu et commettre des atrocités? On le voit actuellement. Alors, est-ce que ces gens sont totalement mauvais? Ils commettent des atrocités, personne n'en doute. Vous voyez à quoi je pense là, actuellement. Néanmoins, ils ne sont peut-être pas réduits à ces actes-là qu'ils commettent. L'autre personnage, c'est Mérite de Trivulus, la dame de la Tour d'Aigle. Alors elle, c'est la, elle a une aura extraordinaire, c'est la dame seigneur de la Tour d'Aigle qui s'occupe de ses vassaux, qui leur est venue en aide. On trouve que même, j'ai trouvé, je ne sais plus dans quelle hauteur, là, mais c'est à faute de lunettes, je ne trouvais pas rapidement. Alors, je crois que c'est Arturo Pascal qui dit que la dame de Santal, c'était les bouliers de Santal, hein, qui sont seigneurs de la Tour d'Aigle, qui sont possessionnés en, en Piémont, des montées, Rocca Spalvera et Centallo. Hein, ont trois seigneuries là-bas, et ils auraient donné refuge à des vaudois provençaux qui se seraient réfugiés là-bas. On en a enfin, on ne sait pas où il a pris ça. On n'a aucun témoignage, aucune archive. Donc, d'où vient cette... En revanche, moi j'ai trouvé quelques archives qui me disent qu'elle n'était peut-être pas aussi généreuse que ça, cette dame, que par, pour laquelle j'ai un grand respect par ailleurs, bien entendu. Mais vous avez quelques actes notariés dans lesquels... Alors nous savons, par des actes, il y a eu 6 ou 7 actes, des gens de Cabrières d'Aigle ou de la Motte d'Aigle qui vont mettre leur bétail à l'abri dans le château de la Tour d'Aigle pendant le massacre, pendant la semaine sanglante. Après, ils vont le récupérer. Et je vois Madame Mérite de Trivulse, boulier de Santal, faire payer à ces paysans qui viennent d'être ruinés le montant auquel s'élève la garde des bovins qui lui ont été confiés. Alors, voyez, je ne peux pas aller plus loin. Ce que je veux simplement dire, c'est que quand on nous présente... Alors maintenant, j'aimerais bien entendre Jean-Claude aussi là-dessus, parce que il se peut que actuellement la société étant ce qu'elle est, elle ait besoin d'avoir ces présentations binaires pour être satisfaite. C'est possible. Et dans ce cas-là, c'est dommage.
Jean, évidemment, là on est entre les faits réels et les faits inventés.
Bien sûr.
Et c'est tout le travail du romancier.
Donc je bats ma coupe pour les erreurs, les erreurs que j'ai pu commettre, j'ai fait en toute bonne foi.
Ça ne nuit en rien.
C'est tout le problème, c'est-à-dire moi je suis obligé de resserrer les choses, et donc forcément quand on resserre, on tombe, si on ne fait pas attention, on risque de tomber dans la caricature. Grosso modo, quand même, dans une histoire romanesque, il faut qu'il y ait les bons et les méchants. C'est obligatoire. C'est parce qu'il y a toujours... Les personnages mauvais sont très intéressants parce qu'ils font ressortir la bonté des autres. Mais je suis quand même obligé de couper, de dégager autour des oreilles, comme diraient les coiffeurs. Quoi. C'est-à-dire, je vais pas faire ça poil par poil, c'est pas possible. Vous avez justement l'avantage, et c'est à la fois votre savoir et votre mérite, de justement de remettre les choses au point. Moi, il faut que j'aille au bout de mon histoire, et donc j'y vais peut-être à trop grands pas, et je comprends que ça puisse titiller la méticulosité de l'historien. Je vais prendre un exemple cinématographique. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de John Ford qui s'appelle La poursuite impitoyable, ou il a eu plusieurs titres en français. Bon. En gros, c'est l'histoire d'une diligence qui est attaquée par les Indiens, et ça dure pendant 3 quarts d'heure. Comme ça. Et donc, il y a un jour, un spectateur qui a dit à John Ford, mais enfin, elle est idiote votre histoire, parce qu'ils passent leur temps à crier autour, les Indiens. Moi, si j'avais été le chef Apache, j'aurais envoyé une flèche sur le premier cheval, et l'histoire était terminée. Et John Ford a dit, mais vous avez parfaitement raison, c'est ce que j'aurais fait si j'étais le chef Apache. Mais j'avais un film 1h15 à faire. Hein, voilà. Donc, vous voulez, je suis un peu dans cette position-là. Si je dis Monseigneur Sadolé était plutôt enclin à l'indulgence ou à la compréhension, c'est vrai que dans le sens que l'on donnait, il n'y avait pas de tolérance religieuse. Et la preuve, c'est que ces pauvres vaudois, ils sont passés à la casserole parce que c'était intolérable au sens le premier du terme. Hein, donc on ne pouvait pas tolérer qu'ils vécussent hors des rails qu'avait tracé l'Église. Mais moi, je peux justement prendre un peu quelques sentiers muletiers qui me permettent de m'échapper un peu. Parce qu'il y a une histoire d'amour dans le monde. Je ne sais pas s'il y a eu une histoire d'amour pendant le mois d'avril 1545, je pense qu'ils ont eu autre chose à faire dans le pays. Mais bon, forcément, il faut s'arranger, il faut faire sa petite tambouille. J'ai encore une métaphore culinaire, mais c'est ça. Je suis tout le temps aux prises de choses comme ça. Bon, je me suis trompé de prénom pour Dubélé, mais enfin, j'ai mis au moins le bon nom de famille. C'est déjà quelque chose. C'est pas que je veuille me trouver des excuses, mais voilà, c'est le danger, c'est le danger.
Alors, je vais dire que l'histoire d'amour, elle est très sobre. Hein.
Ben justement.
Il y a à peine.
Mais ça, c'est une question de, une question de parti pris. J'estime qu'on peut très bien parler d'amour sans faire des descriptions de muqueuse génitale. C'est pas indispensable. Voilà. Donc, je sais qu'il y en a qui se vautrent là-dedans, mais on peut très bien dire que Stendhal il résume une nuit d'amour avec un point virgule hein, dans la Chartreuse de Parme. Voilà. On sait très bien que lorsque le héros s'en va, ils ont couché ensemble, mais c'est jamais dit nulle part. Il faut aussi que le lecteur vienne avec ses propres bagages et prolonge l'histoire.
Alors, juste avant d'aller plus loin, je vais vous demander si vous avez des questions à poser, évidemment, aussi bien à Jean et à Gabriel Audisio. Juste avant, réfléchissez, on va faire le truc classique, on lève le doigt pendant l'école. Vous avez aussi dû recréer des dialogues, parce que ce qu'il y a dans les actes notariés, dans les archives, compulsées, Gabriel, depuis des années, il n'y a pas de dialogue. C'est une retranscription. Voilà. Et donc, il faut imaginer, et à l'inverse de vos romans du polar qui se situent au 19e, au 20e, ou un peu plus, qui est celui du Roi Soleil, le complot du Roi Soleil, un peu plus vieux, il faut recréer avec le style de l'époque. Et là, on devient dialoguiste, en recréant un autre style. Ce n'est pas si facile que ça. Hein.
Non, mais d'ailleurs, c'est absolument pas le style de l'époque. Parce que si, d'abord, ça serait illisible si c'était le style de l'époque. Si on reprenait mot à mot la façon de s'exprimer de l'époque, ça serait totalement illisible. Non, mais par contre, on peut donner une espèce de couleur. Hein. Voilà. Si le personnage, au lieu de dire pas, il dit point, c'est rien. C'est une petite musique qui passe comme ça, mais on a ou alors si on fait les négations, si on fait, vous voyez, il faut éviter d'avoir un langage trop moderne, mais surtout pas plaquer des palsambleus et des choses comme ça qui sont ridicules, hein, par Vantosingris ou autre. Donc, mais on peut donner quand même une petite couleur au style dans la façon de parler. Quant au dialogue, une fois qu'on a la scène, évidemment, il faut que ces personnages s'expriment. Il faut qu'ils s'expriment dans un langage compréhensible, mais qu'ils soient aussi. Il ne faut pas chercher non plus un style trop empoulé. Il faut qu'il y ait des échanges. Surtout quand un noble se présente à un paysan, il va pas faire des circonlocutions. Il faut qu'il soit compris et obéi. Donc voilà. Mais à partir du moment où on a quand même quelque chose qui est intéressant. D'ailleurs, je me permets de vous dire, cher Gabriel Vizio, que votre Autopsie pour un massacre, c'est un titre romanesque en diable. Hein. Peut-être qu'il y a des historiens qui ont froncé les sourcils, mais moi je le trouve merveilleux. S'il n'avait pas été pris, je l'aurais adopté tout de suite. Hein. C'est vrai que c'est magnifique, c'est un titre de polar, Autopsie d'un massacre. Or, c'était. Hein. Et qu'est-ce que c'est? C'est la retranscription des 53 audiences, 52, 53, je ne sais plus, que le procureur du roi a les plaidoiries du procureur du roi devant la cour de Paris, donc, qui accuse d'Opède et
l'exécution de Gabriel et Mérindol.
Voilà, l'exécution de Gabriel et Mérindol, on a la plaidoirie, y compris d'ailleurs tout ce qui a été traduit du latin, parce que les avocats ou les procureurs plaidaient une grande partie en latin, ça devait être extraordinaire. Et donc 53 audiences dans lesquelles on raconte tout ce qu'Opède et ses sbires ont fait comme horreur. Moi, ce qui m'a intéressé aussi dans cette histoire, c'est de voir que non seulement il y a une punition, si vous voulez, à la fois administrative, judiciaire et militaire, mais c'est l'acharnement qui est mis. L'acharnement à éradiquer, à l'échelle de la région, c'est un holocauste. C'est pas simplement des gens à qui on donne une fessée pour les faire rentrer dans le droit chemin. On les affame, pendant des semaines, on les fait mourir de toutes les façons. Il y a aussi tout ce que vous avez rapporté sur les méthodes de l'Inquisition, ce genre de Romain qui fait bouillir les pieds des hérétiques dans des bottes trop grandes pour eux et qui les remplit de graisse. Il y a une espèce de raffinement dans la cruauté. Ces enfants qui sont vendus comme des esclaves, c'est quand même étonnant dans cette histoire. Pourquoi se sont-ils acharnés? Peut-être que Dopède a eu des remords tardifs, mais enfin, sur le moment, il est quand même d'une cruauté terrible. À Mérindol, il fait arquebuser un malheureux qui est à moitié fada, comme on dit à Marseille, et tout ça parce qu'il n'a pas su réciter le Notre Père en latin. Et donc, parce qu'à Mérindol, il ne trouve personne, ils sont tous partis, ils n'ont pas attendu. Et du coup, ben, il en trouve un, il le fait juger en tant que président du Parlement, et il le fait exécuter en tant que militaire. Donc, il est doublement schizophrène.
Alors, la réponse, c'est bien
voyez. Non, voyons. Donc, d'abord, à propos des dialogues, oui, il y a des archives judiciaires, notamment. Moi, j'ai publié ce procès de Pierre Griot, et c'est les demandes et les réponses. Ouais. Hein. Donc, alors, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas les conditions idéales pour un vrai dialogue. Bon. Mais on a un échange. Donc dans les archives judiciaires, on trouve ce genre de choses. Et ensuite, c'est à propos du massacre en général. D'ailleurs, vous avez utilisé ce mot une fois, je crois, sauf erreur de ma part, dans le livre. C'est le mot croisade.
Oui.
Et je crois que c'est le mot juste. Et vous voyez, ça nous reporte à une période que nous avons beaucoup de mal, même à imaginer, qui est que la religion n'est pas option. La religion, elle est viscérale, prenez le moment où la réforme n'est pas encore arrivée, disons 15e, début 16e siècle. On est chrétien, catholique, comme on est le fils de son père ou l'habitant de Lomarin. On a beaucoup de mal à comprendre ça. C'est pourquoi vous ne pouvez pas sortir de cette religion sans que ça soit un péril pour tout le monde. Vous comprenez que ça devient un c'est un asocial, celui qui s'extrait de la communauté religieuse. J'ai toujours eu beaucoup de mal à faire comprendre à mes étudiants à Aix, quand j'expliquais par exemple l'Inquisition. L'Inquisition, c'est par le dernier des moyens, c'est-à-dire la violence, que quelqu'un ne soit damné dans l'au-delà. Et bien ça, c'est vital, voyez-vous. Aujourd'hui, on s'en fiche. Enfin, à peu près. Alors, évidemment, ça nous paraît complètement de commettre des atrocités. Je ne suis pas... Alors, mes étudiants avaient du mal à comprendre ça, parce que je leur expliquais que nous-mêmes, nous avons inventé le droit... On peut être accusé de ne pas avoir porté secours à quelqu'un. Vous le savez, ça.
Oui, l'assistance à personne.
Eh bien, oui. Donc, c'est dans le code pénal. Donc, nous pouvons faire violence. Une anecdote, c'était il y a 20 ou 30 ans, j'ai découpé cet article dans le journal, il y a quelqu'un qui s'était jeté dans la Saône ou le Rhône à Lyon, et il y a quelqu'un d'autre qui passe et qui s'est précipité pour aller le sortir. Et quand il a sorti, la personne qui s'était jetée dit « Mais de quel droit vous m'avez empêché ?» Bon, je veux dire que quand vous touchez à ces questions-là, il faut connaître le contexte. Et le contexte, c'est que la religion est... Quand le roi de France prend des mesures religieuses, de punir les hérétiques, etc., mais il fait son devoir. Il fait son devoir. Alors, alors quand ces gens partent en croisade, moi j'ai quelqu'un à Marseille qui fait son testament parce qu'il part à la croisade contre les luthériens. C'est celle-là, c'est la croisade de 1545. Il part à la croisade. Quand nos nobles français, là, au XIIIe siècle, partaient faire la croisade en Terre Sainte, ils avaient mauvaise conscience, vous croyez? Pas du tout. C'est leur devoir. Alors voilà, donc je veux dire que la remise dans le contexte de l'époque, là, par exemple, je trouve, pour ma part, je ne sais pas comment, sur le plan romancier, on aurait pu le rendre. Ça, c'est-à-dire cette prégnance de la religion dans la vie de chacun. Alors, évidemment, quand on lit ça, comme ça, on projette nos conceptions d'aujourd'hui sur cette période. On appelle ça l'anachronisme.